C'est vraiment une des particularités du Dieu que nous adorons, de regarder les hommes comme étant ses enfants. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler entre les différentes religions aujourd'hui, mais dans certaines religions, prétendre être enfant de Dieu, c'est scandaleux, c'est manquer de respect envers Dieu. Mais pour nous, c'est aussi quelque chose de scandaleux de penser que, dans un sens, Dieu a pu s'approcher tellement proche des hommes par son Fils, qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes ici et qui l'appelons Père, nous sommes ses enfants. Et nous sommes enfants comme son Fils est enfant de Dieu. Et ça, c'est, j'espère, une bonne nouvelle pour vous. J'espère que c'est quelque chose qui, pour vous, reste dans le fond de votre cœur comme quelque chose d'inaltérable, quelque chose que Dieu vous aime tellement que vous, petite créature sur la terre, parmi 7 milliards d'autres personnes, Dieu vous considère comme sa fille ou comme son fils. C'est ça le grand Dieu que nous avons chanté ce matin, c'est ça le grand Dieu que nous adorons, c'est ça le grand Dieu dans lequel nous plaçons notre espérance. Et c'est vers ce Dieu-là que nous nous tournons, en fait, pour trouver aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre jour après jour. Et ce Dieu, lui, se propose dans l'Écriture comme étant le Dieu qui veut prendre soin de nous, comme le Dieu qui veut marcher devant nous, comme le Dieu qui veut entrer dans notre vie et qui veut nous aider jour après jour dans tout ce que nous vivons, afin que nous connaissions la vie en abondance qu'il a l'intention de nous donner. Et si vous étiez là au cours de la dernière année, vous nous avez entendu dans le Conseil d'Anciens apporter toute une série de prédications sur quelque chose qui nous avait frappé et qui frappe beaucoup les chrétiens, c'est que la Bible est pétrie de promesses que Dieu fait pour ses enfants. Dieu dit « Je serai toujours bienveillant à votre égard et tous les matins ma bonté se renouvellera envers vous ». Dieu dit « Je prends soin des moineaux, alors pourquoi est-ce que je ne prendrai pas soin de vous tous les jours ?» Dieu dit « Je sais que ce monde n'a pas d'espérance, ne sait pas quel est son avenir, mais moi je vous donne un avenir. Et cet avenir, c'est un avenir glorieux. » Et nous avons comme ça couvert 5, 6, 7 catégories de promesses de Dieu qu'il donne dans l'Écriture, qui ne sont pas conditionnées par comment nous nous comportons ou ce que nous pensons, mais Dieu dit « Je vous les donne parce que je vous aime et je suis un Dieu bon et je suis un Dieu qui veut vous faire grâce. » C'est ce Dieu-là que vous êtes venu adorer ce matin. Mais lorsque nous avons fini cette série avec le Conseil d'Anciens, à un moment on s'est dit « Mais comment est-ce que nous pouvons tous, en tant qu'Église et chacun individuellement, entrer dans cette vie abondante, saisir ces promesses et qu'elles deviennent réalité ? Parce que dans nos propres vies, comme dans certainement les vôtres, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas toujours facile de vivre des promesses de Dieu et que quelque part ces promesses sont des choses qui nous sont un tout petit peu étrangères. Mais lorsque nous sommes posés cette question, dans le Conseil, en fait, on n'était pas comme si on était pris au piège, comme si quelqu'un nous disait « Et alors, quelle différence ça fait ?» Mais au contraire, on était dans cette exubérance en se disant « Ce Dieu fantastique qui nous promet tellement de choses pour notre vie, nous, tout ce qu'on veut, c'est que dans notre Église, et chacun d'entre vous, et nous les premiers, nous puissions vivre de ces promesses et qu'elles deviennent réalité dans nous au quotidien. » C'est une ambition extrêmement forte. Il faut de la foi pour cela, mais il nous semblait que le Nouveau Testament et l'Écriture ne nous promettaient rien d'autre et ne voulaient rien d'autre, c'est que ces promesses soient réelles pour vous et pour nous. Et c'est là où s'est imposé tout de suite à nous, dans la logique des promesses, un autre thème de l'Écriture que Pierre a commencé à aborder avant l'été, qui était celui, dans un sens, pour lequel on va utiliser l'image de la terre promise. C'est que Dieu veut que nous rentrions dans une terre promise, dégoulinant de lait et de miel, pour utiliser une expression qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour le pays d'Israël. C'est la volonté de Dieu que nous franchissions un certain nombre d'obstacles, que nous sortions d'un désert dans lequel nous avons peut-être tourné pendant un certain temps, que nous franchissions une rivière qui apparemment est insurmontable et que nous entrions dans un pays où Dieu veut que nous vivions de ses bénédictions et de ses promesses. Et chers amis, cette image de rentrer dans la terre promise est une image en fait qui nous renvoie à un autre thème du Nouveau Testament qui est tout simplement nous sommes appelés à vivre une vie aujourd'hui en tant que chrétiens qui est tout autre de celle que nous avons vécue avant et qui est beaucoup plus abondante que ce que nous avons vécu jusqu'à ce jour. Et il faudra nous souvenir, comme Josué l'a rappelé à un certain moment au peuple, de nous dire, mais à un moment, le Seigneur dit, mais pourquoi est-ce que vous négligez de conquérir ce pays? Parce que certains d'entre nous diront peut-être, je ne suis pas digne, je n'ai pas les forces, ce n'est pas pour moi. Mais le Seigneur s'est tourné à un moment et par Josué, il dit à son peuple, mais pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Continuez à progresser, vous êtes en train de négliger ce que je souhaite vous donner. Et chers amis, à chacun d'entre nous, cette terre promise est promise. Et il appartient à chacun d'entre nous d'y entrer de pieds joints et de commencer à conquérir ce pays. Alors, dans les semaines qui viennent, et probablement au cours de l'année, nous allons utiliser le livre de Josué pour illustrer un petit peu cette entrée dans la vie chrétienne. Et je vous invite, dans les semaines qui viennent, à lire ce livre. Il est très facile à lire, c'est des histoires de batailles, de machins, des murailles qui tombent, voilà, des choses comme ça. Mais lisez-le, c'est très facile à lire, ce n'est pas des généalogies. Et simplement réfléchissez un tout petit peu à comment ce livre peut illustrer en fait la façon dont nous rentrons dans la terre promise. Je reviens. Et je vous invite ce matin à lire le texte qui nous servira de base, c'est les premiers neuf versets, du livre de Josué. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Ces premiers versets du livre de Josué sont considérés comme étant un petit peu ce qu'on retrouve dans d'autres livres de prophètes, c'est l'appel que Dieu adresse à Josué. Il dit, Josué, maintenant c'est ton tour, je t'ai choisi, et voilà ce que je voudrais que tu fasses avec ta vie. Avec ta vie, je voudrais que toi tu te lèves, tu deviennes le chef de ce pays, de ce peuple, et je voudrais que tu les fasses entrer dans ce territoire que j'ai promis. C'est l'un de ces moments où on se dit, ouh, tout d'un coup ma vie prend un tout autre sens. Toute sa raison d'être. Et si vous lisez les prophètes, les premiers versets des prophètes souvent sont cet appel que le Seigneur adresse à ses prophètes. Et ici c'est la même chose, il dit, Josué, j'ai quelque chose à te confier. Et ce qui est formidable, c'est que dans ces quelques versets, on va retrouver, me semble-t-il, quatre ingrédients qui me semblent importants pour nous aussi d'utiliser dans notre vie chrétienne. Et vous trouverez certainement des échos dans le Nouveau Testament qui sont importants. Et j'aimerais passer en revue ces quatre ingrédients ce matin. Le premier, c'est que lorsque le peuple est entré en Canaan, il n'y entrait pas comme, vous savez, quand les ministres ils passent le bâton à un autre ministre. Bonjour, au revoir, je m'en vais, c'est une passation de pouvoir, c'est simple, il y en a un qui s'en va, il laisse la place à l'autre. Ce qui allait se passer, c'est que le peuple d'Israël allait devoir conquérir le territoire. Il allait y avoir une dimension de lutte. Il allait y avoir une dimension de bataille. Et ça allait durer un certain temps. Et ça, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est important à savoir pour nous-mêmes dans la vie. C'est que Dieu, il a choisi aussi d'utiliser notre vie et il a choisi d'utiliser les moments difficiles de notre vie pour nous aider à conquérir toutes les bénédictions qu'il veut nous donner. Dieu n'a pas simplement reformaté notre esprit ou appuyé sur le bouton reset pour que tout d'un coup on soit quelqu'un de différent et tout d'un coup on soit joyeux et tout d'un coup tout va très bien dans la vie. Mais Dieu a choisi, et ça c'est un thème qu'on a déjà discuté lors de la discussion des promesses sur les épreuves, c'est que c'est dans ces moments difficiles aussi que Dieu va nous aider à conquérir des aspects de notre vie, à changer notre façon de voir. Et c'est de la façon dont Jésus-Christ lui-même a accompli sa propre œuvre dans sa vie. Il est venu et il a souffert. Il est venu et il a dû apprendre l'obéissance. Il est venu et il a dû apprendre à être fidèle à son Père. Il est venu et il a dû continuellement, jusqu'au dernier jour, se dire « il faut que je reste focalisé sur ce que Dieu veut, mon Père, et non pas ce que je veux. » Et souvenez-vous de cette prière juste avant qu'il soit crucifié. S'il est possible, si d'une façon il est possible que j'échappe à cette mort, mais Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et toute sa vie, Jésus a œuvré dans les moments difficiles aussi, pour rester focalisé sur ce que le Père attendait de lui, mais aussi pour nous acquérir tout ce qu'il voulait nous donner. Et quand vous lirez ce livre de Josué, que vous verrez, oui, c'est des histoires de bataille, et c'est des histoires de... Encore, il faut progresser, puis il y a des ennemis, puis il faut les chasser, puis on est fatigué à certains moments. Dieu, il dit, oui, mais votre vie chrétienne, ça va être en partie comme ça aussi. Les projets de Dieu ne se réalisent pas sans une certaine forme de lutte dans notre vie. Parce que nous vivons dans un monde qui nous est hostile, comme le territoire de Canaan était hostile aux Israélites, mais aussi, comme je viens de le dire, parce que c'est comme ça que Dieu, en grande partie, a choisi de nous fortifier. Et là, je vous invite à relire aussi ce que Pierre dit à propos de l'épreuve. Et ces belles images qu'il utilise de la purification de l'or. Il faut faire bouillir l'or, il faut faire le chauffer pour que toutes les saletés remontent à la surface, qu'on puisse les enlever et que reste en fait la pureté de ce métal juste en dessous. Les aciers les plus forts sont les aciers qui ont été chauffés, trempés. C'est eux les aciers les plus forts. Les arbres les plus beaux, moi je suis sensible aux arbres, mais les oliviers les plus beaux sont ceux qui ont vécu un certain nombre d'années et qui ont souffert dans le vent et la tempête et qui sont tortueux, etc. Moi j'ai un tout jeune olivier, il est tout beau, il est rectiligne, etc. Bon, voilà, pas grand-chose. Puis je bave devant les beaux grands oliviers, etc. Et tout, mais il y a un mystère là-dedans. Et ce mystère, c'est que les souffrances et les difficultés que vous vivez ne sont pas sans un sens ou sans une raison d'être, mais sont des instruments entre les mains de Dieu pour vous faire découvrir les bénédictions que le Seigneur veut vous donner. Le deuxième aspect qui est donné ici, c'est que, en fait, Dieu il dit, tu sais, Josué, moi je suis prêt à t'accompagner là-bas si tu veux y aller, hein, et puis si tu y vas, ben, je serai avec toi, puis voilà, mais choisis, fais ce que tu veux. Non, ici le Seigneur il dit, Josué, t'as pas vraiment le choix, lève-toi. Conduit ce peuple, traverse le Jourdain et part à la conquête de ce territoire. Il y a une dimension de commandement dans rentrer dans la vie chrétienne. Et là aussi, c'est quelque chose qui... Il ne suffit pas simplement de désirer et vouloir et aspirer aux bénédictions de Dieu. Il y a un moment où il faut qu'on se lève, comme l'a fait Josué, et qu'on se mette en marche pour commencer à saisir ces promesses et qu'elles deviennent réalité pour nous. Et je voudrais simplement rappeler ce que Pierre nous rappelait lui encore dans sa prédication, c'est que ça va passer par une transformation de notre intelligence, une façon de voir les choses différemment, parce que Dieu pense différemment que nous, et il va falloir que nous, on arrive à penser différemment et penser comme Dieu, si nous voulons à un moment bien saisir les promesses que le Seigneur veut nous faire. Et je crois qu'il arrive trop souvent, on se dit, c'est dur, je suis fatigué, et puis de toute façon, ça n'a pas de sens pour moi. Et on baisse les bras. Mais le Seigneur, il nous dit non. Lève-toi, continue. Et on reviendra sur ce sujet dans la série. C'est que ni l'âge, ni ce que nous avons vécu jusqu'à présent ne peuvent être une excuse pour nous arrêter aujourd'hui. Il y a toujours plus à conquérir et aller de l'avant. Et il y a deux raisons externes, me semble-t-il, à simplement ce que nous pensons, qui sont importantes pour lesquelles c'est un commandement. La première, c'est que qui que sommes-nous pour négliger ce que le Seigneur a voulu accomplir en Jésus-Christ et la vie abondante qu'il veut nous donner. Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et vous l'ayez en abondance ». Alors, qui sommes-nous, dans un sens, au regard de ce prix qu'il a payé, de ce plan qu'il a, pour dire, dans un sens, mais tu sais, Seigneur, c'est sympa de ta part, enfin, pour l'instant, j'ai d'autres projets. Et ça, c'est une mise en garde, c'est une mise en garde qu'on retrouve dans le livre de Josué, comme je vous ai cité tout à l'heure au chapitre 18, où il dit, mais est-ce que vous allez continuer à négliger la conquête? Parce qu'il y avait déjà 5 tribus qui avaient trouvé leur territoire, puis se sont posées, puis se sont dit, c'est déjà pas mal comme ça. Et il y en avait 7 qui n'avaient pas encore leur territoire. Et Josué leur dit, mais attendez, c'est pas fini. Et l'apôtre Paul, lui, dans ses épîtres, il continuera, puis il dira, mais jusqu'au dernier jour, je poursuis et j'avance parce qu'il y a encore du territoire à conquérir dans ma vie. Et tout ça, chez l'apôtre Paul, c'est parce qu'il a contemplé l'œuvre de Jésus-Christ et il se dit, au regard de cette œuvre sur la croix, qui suis-je pour négliger un si grand salut? Mais il y a une deuxième raison externe qui me paraît extrêmement importante aussi, c'est que le territoire qui a été donné au peuple d'Israël, c'était qu'une partie de la promesse qui était faite aux ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'était qu'une partie, et cette promesse était par-dessus tout. Je vais te bénir, toi Abraham et ta descendance, afin que vous soyez une bénédiction pour tous les peuples de la terre. La bénédiction et la promesse que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous, ce n'est pas une bénédiction qui est simplement réservée à nous en tant qu'individus, puis moi j'ai mon petit lopin de terre dans la terre promise, et c'est terminé. C'est qu'en étant bénis par le Seigneur, nous sommes les moyens par lesquels le Seigneur peut bénir d'autres personnes et être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. En entrant à pieds joints dans le projet de Dieu pour notre propre vie, nous rentrons à pieds joints dans le projet qu'il a pour le monde et pour l'humanité. Dans notre prière d'intercession, dans l'évangélisation, dans le témoignage, dans notre travail que nous faisons pour les uns et pour les autres. Tout cela est un rôle que nous jouons et que le Seigneur, dans un sens, il dit « Entrez là-dedans parce que moi, mon plan, il est plus grand que simplement vous donner ce territoire. » Et vous savez que la bénédiction d'Abraham s'est accomplie de façon ultime et magnifique en Jésus-Christ lorsqu'il est venu. Et donc il fallait que le peuple d'Israël entre dans le territoire de Canaan. Comme il faut qu'aujourd'hui nous entrions de pieds joints aussi dans notre vie chrétienne pour pouvoir briller de ces lumières tout autour de nous et être ces témoignages et être une bénédiction, nous laisser transformer afin que dans nos relations personnelles, nous soyons des êtres qui fassent du bien à ceux qui nous entourent, et non pas simplement des personnes grognons et qui attendent simplement que le Seigneur revienne. Donc ce n'est pas simplement un choix qui est donné, c'est aussi une forme de commandement qui nous est donné. Et l'apôtre Paul le prendra tout le temps, lui, dans ses épîtres, il dira, puisque c'est ça que Jésus-Christ a accompli ou que Dieu a fait en Jésus-Christ, maintenant, ben, comportez-vous de façon différente. Vous étiez autrefois enfant de lumière, mais parce que enfant de colère, mais parce que la lumière est venue, vous êtes maintenant enfant de lumière. Marchez d'une façon digne de cet appel qui vous a été adressé. Et tous ceux qui disent, oui, mais moi je suis trop petit, je suis trop ceci, etc. Et tout, ben, je vous invite, reprenez Deutéronome 7. Rentrez à la maison, lisez Deutéronome 7. Et Dieu, il dit, tu sais quoi, moi je sais très bien que tu es le plus petit de tous les peuples, insignifiant, tu sais même pas te battre, tu n'as pas de chevaux, tu n'as pas de chars, vous êtes désorganisés, il n'y a pas de généraux, tout le monde part de son côté, je le sais. Mais c'est vous que j'ai choisi. Dieu le sait que nous sommes faibles. Dieu le sait que nous ne sommes que poussière. Mais ça ne l'a pas arrêté et ça ne l'arrêtera pas. Le troisième ingrédient qui me paraît important ici dedans aussi, c'est qu'il y a toute une dimension, bien sûr, de commandement, mais aussi de promesse. Alors je reviens évidemment à la promesse, mais ce qu'il y a dans ce texte, c'est que Dieu il rappelle et c'est un petit peu bizarre parce qu'il dit « va et va conquérir ce territoire », mais en même temps il dit « c'est moi qui te le donne ». Alors je te le donne ou je vais le conquérir. Alors, mais il y aura toujours cet élément que Dieu rappellera à son peuple. Il dit « je te le donne, donc va le conquérir ». Va le conquérir, mais c'est moi qui chasserai tes ennemis. Et Dieu rappelle à Josué, que c'est lui qui marche devant son peuple. Et que le fait de conquérir, c'est simplement prendre possession de quelque chose qui va nous être donné et que Dieu a l'intention de nous donner de toute façon. Ce n'est pas la conquête qui est une condition pour obtenir quelque chose. Ben, d'accord, je vais aller le conquérir, mais tu m'avais promis que tu nous le donnerais, maintenant tu me dis qu'il faut aller le conquérir. Non, c'est en même temps ces deux choses-là. Et Dieu le rappelle à Josué, il lui dit « je te le donne ». Et les promesses que nous avons étudiées ensemble, c'est des choses que Dieu s'est engagé à les faire. Il veut nous les donner. Et que notre vie chrétienne est une façon de cueillir ce fruit qui est là sur l'arbre, qui nous est donné, qui est mûr. Et que le Seigneur veut tout simplement que nous prenions et que nous mangions. Et ça, il le rappelle à Josué. Il dit... je te le donne. Un deuxième aspect de la promesse qui m'a frappé là-dedans aussi, c'est qu'il dit à Josué, tu sais, partout où tu marcheras et que tu fouleras du pied, je te le donnerai. Wow. Je marche, tout le territoire dans lequel je marche, tu me le donnes. Et ça me faisait penser, dans un sens, à il n'y a rien dans notre vie. Rien dans notre vie dans lequel nous vivons, aucun domaine de notre vie, que le Seigneur ne dit pas, je voudrais bénir cette partie de ta vie. Je voudrais que les promesses soient pour ça. Les promesses que le Seigneur nous a faites ne sont pas simplement pour notre esprit et pour notre cœur et pour notre spiritualité, puis le reste, il se dit, c'est un peu beaucoup, puis je ne sais pas trop comment faire, ou ce sera plus tard. Il n'y a rien dans notre vie dans lequel nous entrons et dans lequel nous vivons, nos relations, notre travail, notre vie d'église, notre responsabilité en tant que citoyen, notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants, notre vie sexuelle, nos impulsions violentes. Il n'y a rien que nous pouvons fouler dans notre propre vie que le Seigneur ne voudrait pas, dans un sens, toucher de par sa grâce et toucher par ses promesses. Et tout ce que vous foulez dans votre vie en marchant au jour le jour, le Seigneur, il dit, tu sais quoi, moi je suis là avec toi et je voudrais que ma grâce et ma bonté marquent aussi cet aspect de ta vie. J'en ai listé quelques-uns, mais il y en a certainement d'autres dans notre propre vie. Et là, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. C'est que dans un sens, le Seigneur, il dit à Josué, ben vas-y, foule des pieds dans un sens ce que tu veux, je te le donne. Parce que j'ai tellement l'intention de te donner un grand et bon pays que de toute façon, qu'est-ce que tu pourrais fouler dans un sens que je ne pourrais pas te donner ? Et qu'est-ce qu'il y a, chers amis, dans votre vie aujourd'hui, éventuellement, que vous foulez du pied, dans lequel vous êtes imprégné et vous avez l'impression que Dieu ne peut pas ou ne voudrait pas vous donner? Et je crois que le Nouveau Testament nous le dit, nous sommes des êtres qui sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et ce mot « créature » fait nécessairement référence à la Genèse et la création de l'homme dans tout ce que Dieu a voulu que nous soyons, physique, spirituel, tout. En Christ, nous sommes cette nouvelle créature et tout peut être marqué par la grâce et la bonté de Dieu. Tout le territoire que vous foulez dans votre vie, rien ne résistera parce que le Seigneur nous le donnera. Et souvenez-vous de la promesse de Jésus qui lui-même dit « Je serai avec vous tous les jours ». Alors il ne disait pas simplement ça pour dire ben, « Je serai là tous les jours ». Mais tous les jours, ça signifie aussi partout, tout le temps, dans les moindres instants, et là où vous serez. Et c'est l'intention du Seigneur d'être là à nos côtés et de nous aider à conquérir ce territoire. Et puis le dernier ingrédient, c'est celui de cette exhortation qu'on retrouve au verset 6 et au verset 9, « Fortifie-toi et prends courage ». C'est une expression qui va se retrouver plusieurs fois dans le livre de Josué, mais qui se retrouve aussi plein de fois dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas vérifié, mais un commentateur dit qu'il y a 365 utilisations d'une expression équivalente. Et il trouvait absolument amusant que le Seigneur en aurait donné 365 pour chaque jour de l'année. Ne prenez pas ça pour argent comptant, parce que je n'ai pas vérifié et on ne sait pas. Mais je crois que l'idée est là quand même. C'est que le Seigneur, il prend les devants et il sait que nous sommes dans la crainte à certains moments, qu'il nous manquera du courage, pas seulement au début, mais pendant la conquête aussi. Et pourtant, Josué, je veux dire, il n'avait pas froid aux yeux, ce mec. Je veux dire, c'était un des généraux de Moïse quand même. Il avait fait quand même quelques campagnes derrière lui, il avait été gagnant, je veux dire, il était courageux, Pierre nous l'a rappelé l'autre fois, il est allé seulement avec 11 autres bonhommes, puis il regarde le territoire, il y en a 10 qui disent « impossible à prendre », puis lui et Caleb, ils disent « si, c'est faisable, avec l'Éternel c'est faisable ». Je veux dire, il n'avait pas froid aux yeux, et pourtant ici le Seigneur prend les devants. Et va là-dedans et il dit « Fortifie-toi et prends courage. » Mais lorsque moi je le dis, c'est un petit peu « ben voilà, je n'ai pas vraiment d'autres conseils ou d'autres choses à te dire, donc ben, si, tiens bon, hein, tu verras, ça s'arrangera. Hein, ça s'arrangera, puis je prierai pour toi. » Mais le Seigneur ici, lui, il dit « Fortifie-toi et prends courage », mais il ajoute. En fait, c'est pas de la méthode Coué, c'est pas simplement je vais être sympa avec toi pour te dire quelques paroles encourageantes. C'est qu'il lui dit, souviens-toi de tout ce que tu as déjà vu et surtout de ce que j'ai déjà dit à Moïse. Plonge tes regards dans le livre que j'ai donné à Moïse, dans tout ce que je lui ai dit, parce que c'est là que tu vas trouver ce dont tu auras besoin pour conquérir ce territoire. Et là, si vous avez le temps, je suis sûr que vous aurez le temps au cours de l'année, relisez le livre du Deutéronome aussi, parce que ça, c'est un livre qui est de préparation pour rentrer dans la terre promise, et il parle du pays, et il parle de toutes ses promesses, mais toutes les difficultés, etc. et tout. Mais c'est là où Dieu donne des instructions au peuple avant qu'il entre, en lui disant, voilà, je t'équipe d'un certain nombre de choses, avec ça, tu peux y aller. Et on aura l'occasion de voir à quel point le peuple, à certains moments, il s'est dit, tu sais quoi, moi j'ai une meilleure idée que toi, Seigneur. Parce que toi, tu nous dis d'un petit peu de faire comme ça, mais moi j'ai une autre idée. Et ça ne marchera pas toujours. Ça ne marchera pas toujours. Et c'est pour ça qu'il dit à Josué, il dit, Josué, tu sais quoi, je t'ai déjà donné un certain nombre d'instructions. Et pour nous, pour saisir les promesses de Dieu dans notre vie, je ne vous demande pas d'être beaucoup plus spirituel, dans le sens un petit peu galvaudé du terme. La recommandation qui nous est faite ici, c'est prends appui sur les Écritures que je t'ai données, parce qu'elles sont déjà très claires. Et ça, c'est un fondement solide sur lequel tu peux te reposer pour conquérir le territoire que tu as à conquérir. Et Josué, lui, s'est dit, très bien, une épée à la main, le livre de la loi sous l'autre bras, et c'est avec ça, dans un sens, que je peux avoir le courage qu'il me faut pour aller de l'avant. Chers amis, c'est dans les Écritures qu'il faut que nous plongions nos regards constamment pour trouver, en fait, ce que le Seigneur nous dit, les instructions qu'il nous donne, nous aider à penser différemment, comme nous invitait encore à le faire Pierre. C'est là que se trouve la force dont nous aurons besoin, mais aussi les instructions pour savoir où aller, quand, à quel moment. Donc ne négligeons pas cette lecture de l'Écriture. Ne la lisons pas simplement en se disant « il faut que je la lise », mais lisons-la pour nous laisser imprégner, marquer, instruits par elle. En pensant à notre propre vie, en disant « tiens, quelle lumière est-ce que ça jette sur ma vie ? Comment est-ce que l'Écriture a l'air de dire les choses différemment que moi ? Et comment est-ce que moi-même je me laisse transformer par elle et que je commence à conquérir des choses dans ma propre vie ?» Chers amis, c'est quelques points que je voulais mettre en avant que nous entamions une série d'études sur les différents aspects. Ce sont des principes, me semble-t-il, que Dieu a donné dès le début à Josué pour lui dire « voilà ce qu'il va falloir que tu aies lorsque tu rentres dans le territoire. Et il faut que tu tiennes tout ça. N'oublie jamais que c'est mon plan que tu es en train de réaliser et je te demande d'obéir. N'oublie jamais que c'est parce que moi je l'ai promis et que je vais chasser tes ennemis que tu vas pouvoir conquérir. Ne crois pas que tu vas être tout seul. » Et puis sache aussi que je t'ai déjà donné plein de choses pour t'équiper pour aller de l'avant. Et que tu as toutes les armes qu'il te faut, si on pourrait continuer à discuter avec Éphésiens 6 sur les armes qui nous sont données pour conquérir. Tu les as. Alors allons-y. Mais il y a un risque, chers amis, c'est que si nous ne nous attachons pas à ces principes, et que nous disons, moi j'ai ma petite idée sur comment je peux faire les choses, sachez qu'il y en a d'autres qui nous ont précédés qui ont fait exactement la même bêtise. Le peuple d'Israël lui-même. Parce qu'il y a eu un moment où, lorsque ces 12 bonhommes sont allés voir le territoire de Canaan, qui sont revenus, et qu'il y en a 10 qui ont dit, moi j'irai pas. Le Seigneur, il a dit très bien, tu n'iras pas, et puis ils sont morts. Et Moïse a rapporté tout ça au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël, il a dit, ouh, d'accord, alors il faut y aller. Alors ils sont levés, et puis ils se sont dit, ben on y va, et on va commencer à attaquer. En oubliant complètement les instructions du Seigneur à un moment, où quand est-ce que le Seigneur a dit, il faut que tu y ailles, et vous pouvez lire dans Nombre 14, ils ont commencé à descendre, ils ont commencé à traverser, puis à mener bataille contre les autres en se disant, bah, très bien, si le Seigneur nous le promet, on va le faire, et puis tout ça. Mais ce n'était pas ce que le Seigneur avait prévu. Vous savez, comme moi, ils ont pris une raclée et puis ils sont revenus. Il nous faut rester attachés un peu à ces principes, à ces choses que le Seigneur nous donne, parce que c'est comme ça que le Seigneur va ouvrir ce territoire qu'il a devant nous et qu'il veut nous donner. Chers amis, nous sommes aujourd'hui un petit peu là sur le bord du Jourdain. On court le risque de continuer à tourner dans le désert. Enfin, c'est pas très amusant. On mange pas bien. Même si on mange pas bien. Il fait chaud. Ou alors, on peut traverser ce Jourdain et partir à la conquête. En tout cas, nous, c'est notre désir que nous, en tant qu'Église, on puisse partir à cette conquête. Et que chacun d'entre vous ici, que je regarde dans les yeux, et tous ceux qui ne sont pas là, qui fréquentent cette église, c'est la prière du conseil, que nous puissions, par l'enseignement qui est diffusé ici, par les cultes qui sont célébrés, par les activités que nous avons les uns avec les autres, c'est que nous puissions tous, non pas simplement nous satisfaire de ce que nous avons maintenant, mais de contempler ce que le Seigneur nous promet dans cette terre promise, et d'y aller et de le conquérir pour nous-mêmes, mais aussi pour notre Église et les autres, et aussi pour le plan de Dieu tel qu'il a l'intention de le réaliser aujourd'hui. Je vous invite à quelques instants de silence, après quoi je conclurai et je passerai la parole à Philippe. Seigneur Dieu, est-ce qu'il y a d'autres paroles qui peuvent être plus encourageantes que celles que tu as données à Josué pour entrer dans le territoire et qui seraient encourageantes pour nous aujourd'hui pour continuer à avancer dans notre vie chrétienne et à saisir ces promesses que tu nous as données? Alors Seigneur, je voudrais te prier que tu calmes les craintes des uns et des autres, que tu renouvelles le courage, Seigneur, des uns et des autres, que peut-être ceux qui ont décidé de faire une pause puissent trouver la force de se remettre en marche et de te faire confiance, Seigneur, que tu ouvriras les portes et que tu déverseras tes bénédictions dans notre vie et dans notre Église, et que par nous, Seigneur, tu pourras continuer aussi ton œuvre et ton projet dans le monde autour de nous. Père éternel, ce matin, je voudrais encore te remercier profondément pour ta parole. Parce qu'elle est tellement pertinente, elle a tellement de choses à nous dire pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, je veux te prier que notre cœur puisse être perméable à cette parole. Et que ton esprit, Seigneur, puisse être libre de souffler et d'opérer cette transformation en nous comme tu le souhaites. Et puis Seigneur, par-dessus tout, nous voulons ensemble te remercier pour ta bonté, ton amour envers nous, ta grâce qui s'est manifestée en Jésus-Christ, Seigneur, et ces promesses que tu nous fais là où tu veux ouvrir les écluses du ciel, Seigneur, et simplement déverser au-delà de ce que nous pouvons imaginer tes bénédictions dans notre propre vie. Alors Seigneur, même si c'est par des chemins détournés, des chemins étroits, caillouteux par moments que nous devrons le faire, nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à continuer à avoir confiance et que tu nous équipes, Seigneur, pour conquérir et de façon durable ce territoire qu'est notre vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi pour l'œuvre que tu as faite. Gloire à toi, Seigneur, pour ce projet que tu as pour la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus qui nous a précédés dans cette vie, Seigneur, qui nous a donné l'exemple, qui lui a été victorieux devant nous, Seigneur, et qui dit tout simplement, venez à ma suite, c'est en son nom que nous prions. Amen.
Moi, j'ai envie de dire merci ce matin. Merci à notre Dieu pour les promesses qu'il a, pour les promesses qu'il a déjà pour les enfants qui sont parmi nous, puis les promesses qu'il a aussi pour chacun de nous et pour l'Église de façon plus globale. Je partage avec vous les annonces pour les deux semaines qui viennent, et oui, mardi prochain, mardi 9, les cellules. Alors, la cellule de Collonges, Farges, Perron, etc. va se réunir chez Pierrick et Lydia. La cellule de Gex chez Didier et Loredan. Et la cellule de Prefsin chez Emmanuel et Rebecca. Le week-end prochain, il y a un week-end de prévu, le week-end au Col des Mosses. Donc pour le coup, il n'y aura pas de culte ici, dimanche. Attention, pas de culte ici. On vous invite à participer au culte qui se déroule dans les autres églises évangéliques du Pays de Gex. Si vous voulez des informations, demandez-moi. C'est peut-être aussi l'occasion pour ceux qui restent ici, qui ne pourront pas venir au week-end, de faire connaissance aussi avec les autres chrétiens de la région du Pays de Gex. Sinon, pour le Col des Mosses, n'oubliez pas de vous inscrire. Il y a une liste sur le tableau au fond de la salle. Il y a encore beaucoup de place. C'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire. Alors, n'hésitez pas. C'est important qu'on puisse se retrouver un certain nombre, qu'on soit suffisant, en nombre suffisant pour partager ces moments ensemble. Vous pourrez monter pour le pique-nique de samedi midi, ceux qui veulent, ceux qui peuvent, ceux qui ont aussi envie de faire une balade l'après-midi, vous pouvez monter et pique-niquer sur place à midi. Le repas du soir, ce sera donc un repas canadien, donc n'hésitez pas à prendre des choses à partager, un plat sucré, un plat salé. Prenez aussi du sucré en complément pour les 4 heures, soit de samedi, soit de dimanche. Ensuite, pour le petit déjeuner, puis le repas de dimanche, le repas de midi de dimanche, ceux qui veulent participer, vous pouvez contacter Déborah ou Anne-Marie. Il y a quelque chose qui sera organisé, quelque chose d'assez simple au niveau préparation, mais quelque chose qui soit quand même, rassurez-vous, suffisamment copieux pour chacun. Lundi de la semaine d'après, donc le lundi 15, on aura le conseil qui se réunit. Le jeudi de 18, il y aura aussi la reprise de la pastorale. C'est aussi important de penser à ce travail qui se fait avec les autres églises. Le jeudi 18, c'est aussi la première soirée du cours Alpha Couple, donc la soirée découverte. Si un couple voulait encore participer, je pense que ça doit être encore temps, dites-le moi rapidement parce qu'il faut s'inscrire. Ensuite, le samedi 20, donc samedi dans deux semaines, reprise des clubs d'enfants. C'est important de prier pour cela, de participer aussi, de le communiquer. Je ne sais pas au niveau des flyers comment ça va se passer.
Ça va arriver cette semaine, on les posera là au fond de la salle.
Voilà.
Et jeudi, il y aura la chorale, donc on
aura, je pense. Ok. Voilà. Et puis, si des personnes veulent en avoir, contactez-nous, contactez Emmanuel et Rebecca. C'est important aussi de le faire connaître. Le samedi 20, c'est aussi la reprise du groupe de jeunes. Donc à 20h, groupe de jeunes. Et je vous rappelle aussi, donc le dimanche 21, on aura, j'espère, le thé café ce coup-ci. Et puis le culte à 10h30. Et je vous rappelle aussi notre assemblée de membres le 30 septembre. Des nouvelles de Guylaine. Et Guylaine est hospitalisée depuis une semaine pour faire des examens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait fait plusieurs chutes il y a quelques mois. Et donc, suite à ces chutes, les médecins avaient pensé que c'était important de faire des examens pour savoir un petit peu pour quelles raisons est-ce qu'elle avait ces pertes de connaissances et ces chutes. Donc, c'est ce qu'elle fait. Ça fait déjà une semaine qu'elle est à l'hôpital d'Annecy. Donc, c'est important aussi de prier pour elle. Ce n'est pas forcément évident, déjà une semaine à l'hôpital, et puis ça continue. Donc, pensons à Guylaine. On a mis au fond de la salle un nouveau tableau sur les dons et les offrandes qui nous montre la progression des dons et des offrandes depuis le début de l'année par rapport aussi aux nouveaux objectifs qui ont été fixés. Je vous laisse les découvrir, j'en dis pas plus, mais c'est réjouissant. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets. Dans psaume 47, les versets 9 et 10. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Dieu est souverainement élevé. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bonne semaine.